Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Comment prévenir la peste porcine africaine? Pour en parler, nous recevons à présent Dr. Florent Ngamouna. Il est médecin vétérinaire et il est également le président national du syndicat des médecins vétérinaires au Congo, de la RDC. Docteur Florent, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Parmi les maladies qui déciment les porcs, on cite la peste porcine africaine. Dans les districts de Haute-Uele, en province orientale, cette maladie a déjà tué plus de 90% de cheptels en territoire des Rungu, Wamba, Niangara et Dungu depuis 2012. Alors, c'est quoi la peste porcine africaine? Quels sont les signes de cette maladie? Comment peut-on la prévenir? La première question, docteur, c'est quoi? Pouvez-vous nous présenter cette maladie qu'on appelle peste porcine africaine?
Merci. Je ne suis pas d'abord frappé par le pourcentage de mortalité.
Oui.
C'est une maladie très, très meurtrière. C'est une maladie
Vous n'êtes pas frappé?
Mais parce que, en fait, la peste porcine africaine décime des cheptels entiers. C'est une maladie qui est présente en Afrique. Il faut savoir qu'il y a deux pestes porcines africaines. Il y a la peste porcine classique qui est en Europe et qui a un vaccin. Et il y a la peste porcine africaine qui sévit chez nous et qui malheureusement n'a aucun vaccin et aucun traitement. Alors la maladie, c'est une maladie virale. Elle frappe de façon impitoyable là où elle émerge. C'est une maladie qui se caractérise par les signes suivants. Le porc est d'abord abattu, la fièvre est très élevée, le train postérieur est paralysé, les porcs ne se lèvent plus ou ils traînent le train postérieur. Et on remarque sur le corps de l'animal de l'hémorragie sous forme de points, pas sous forme de plaques. Parce que l'hémorragie en plaques, ça c'est une autre maladie, le rouget, mais sous forme de points sur la peau de l'animal. Alors, on observe aussi une appétence très caractérisée et la rougeur aussi des...
C'est quoi l'appétence?
Pardon, une appétence, c'est-à-dire que l'animal n'a plus l'appétit, il ne mange plus.
Ok.
Ouais. Alors, la maladie se transmet comment? Eh bien, c'est une maladie qui est d'abord malheureusement une maladie aérosol, c'est-à-dire que le virus peut se déplacer par la voie de l'air. Et ensuite, il y a le problème des contacts et l'usage, en fait, des instruments ou du matériel qui a été utilisé dans une porcherie ou à un endroit où les porcs sont déjà frappés par la maladie. Alors, c'est aussi le problème de mouvement des animaux. Quand la peste porcine frappe, il faut que le village où la maladie a frappé soit complètement isolé. Il ne faut pas qu'on déplace les animaux pour aller les cacher ailleurs. Et la maladie est caractérisée par le fait que les animaux qui sont rescapés de la maladie sont porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils ont le virus dans le corps et ils peuvent les transmettre aux autres. C'est ça le problème de la peste porcine africaine. Et il faut savoir aussi que, en fait, dans les élevages en divagation, les porcs sont en contact avec les suidés sauvages, n'est-ce pas, les potamochères, etc., qui, eux, ont sur le corps des tiques. Les tiques qu'on appelle Onithodorus mobata. Cette tique-là est vraiment la tique qui emmagasine ou qui conserve le virus de la peste porcine africaine. Mmh. Et une fois qu'elle vient prendre son repas de sang sur le porc, il transmet directement le virus et quelques temps après l'incubation de quelques jours, nous avons l'éclatement de la maladie dans le village.
Donc ce sont les tiques,
les tiques et puis le contact. Voilà. Et même les vétérinaires qui vont d'une ferme à l'autre peuvent véhiculer le virus facilement. S'il n'y a pas de mesures de précaution par rapport à l'hygiène que le vétérinaire doit tenir pour entrer dans une porcherie.
Et cette maladie, la peste porcine africaine, dans notre pays, elle s'est manifeste beaucoup plus dans quelle partie?
Non, la maladie est endémique. Elle est endémique en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays africains. En fait, la maladie frappe partout. Pour le moment, nous sommes au courant. Quand j'étais dernièrement à l'Équateur, c'est là où j'ai appris que vers Dungu et tout ça, il y avait l'éclatement de cette maladie et on me demandait s'il y avait un traitement. Sinon, la peste porcine africaine n'a pas de traitement. Il n'y a ni médicaments ni vaccins. Le seul moyen, c'est d'avoir les mesures de prophylaxie. Il faut vraiment se protéger par rapport à l'introduction des nouveaux porcs, par rapport à l'élimination d'un cheptel déjà atteint. Dès que la maladie éclate chez vous, il faut pas qu'il reste des porcs. Il faut les faire les vides sanitaires pour repeupler après.
Mais c'est des pertes énormes pour les éleveurs.
Bien sûr, ce sont des pertes énormes. Malheureusement, nous ne pouvons que constater les faits. Il faut savoir aussi que nous sommes en Afrique où il y a très peu de moyens pour les recherches. Vous voyez qu'en Europe, avec la peste porcine classique, ils ont vite trouvé les vaccins. Ici, chez nous, le vaccin s'est fait attendre. Je sais qu'au laboratoire vétérinaire de Kinshasa, ils sont en train de faire des essais sur certains vaccins, mais jusque-là, les choses n'avancent pas comme on attendait. C'est une maladie un peu difficile à combattre.
Mais est-ce qu'il peut y arriver que dans un élevage, les porcs suivent bien leur calendrier vaccinal, mais malgré cela, la maladie éclate.
Oui, c'est-à-dire le problème, c'est ce problème d'aérosol. Donc, le virus peut se déplacer par la voie des airs et atteindre votre ferme. Et il faut savoir aussi que le fait d'amener chaque fois des visiteurs dans votre ferme, c'est une voie aussi pour qu'ils véhiculent le virus vers votre ferme. Donc il faut éviter, il faut que la porcherie doit être un endroit vraiment isolé. Le porcher entre et même vous-même, le propriétaire, de temps
en temps.
D'abord,
les porcs eux-mêmes sont sales, non?
Les porcs ne sont pas sales. Les porcs sont propres.
Mais ils aiment bien la boue.
La boue, c'est pour se refroidir.
Oui.
Le porc, lui, il a très chaud. Donc, il a une panicule de graisse sous la peau. Mm-hmm. Et quand il y a un peu de chaleur, il a besoin de pouvoir se refroidir. Alors, si vous prenez des précautions dans votre porcherie, il faut qu'il y ait de l'eau. Le porc ne pourra pas aller se vautrer dans la boue. Il est dans son bassin de natation là-bas.
Il est en train de se refroidir.
Oui, il se refroidit. Donc, le refroidissement est très important pour le porc pour la régulation de sa température.
Modeste Momba nous appelle des Kananga dans la province du Kassai occidental. Modeste, bonjour.
Bonjour l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Bonjour.
On vous écoute, Modeste.
D'accord, le sujet vraiment me paraît intéressant parce que cette maladie-là, j'ai déjà lu ça sur Internet. Mais je voudrais d'abord poser la question à l'invité. Pourquoi il dit que cette maladie n'a pas de vaccin ou n'a pas de traitement ici en Afrique? Et il a cité là-dessus deux sortes de pestes porcines. La peste classique qui sévit en Europe, qui a vraiment un vaccin très efficace. C'est parce que les blancs chez eux, quand ils font des expertises, ils doivent toujours trouver des solutions. Alors pourquoi chez nous, cette maladie n'a pas de vaccin, Dédé? Lui, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'il peut vraiment dire aux gens qui sont en train d'élever, aux éleveurs, pour pouvoir prévenir cette maladie-là, parce que peut-être ils sont en train de vivre avec cette maladie-là dans leur porcherie, ne les sachant pas. Quels sont les signes cliniques? Et en troisième position, je voudrais savoir, parce que cette maladie est en train de ravager les porcs de la République démocratique du Congo, mais dans quelle province retrouve-t-on cette maladie vraiment à un taux très élevé? Merci beaucoup, monsieur.
Bien, docteur Flo.
Oui, merci pour la question, monsieur Kachama.
Monsieur Modeste Mwamba.
Modeste Mwamba, voilà. Okay. Modeste Mwamba, pardon. À Kananga. Eh bien, le problème de recherche en Afrique, c'est un problème des moyens. Je ne sais pas si vous avez des moyens pour que nous puissions faire des recherches sur la peste porcine africaine. Nous sommes prêts. Nous allons vous contacter pour ça. Mais je sais que notre pays n'a pas assez de moyens pour ce genre de recherches et que, en fait, nous le disons toujours, les Européens, comme ils ont trouvé la solution chez eux, eh bien, en Afrique, ils regardent d'une façon un peu avec désinvolture.
Mais comment ça, on n'a pas de moyens pour faire la recherche ici chez nous?
Moi, je suis prêt. Si vous avez de l'argent, je suis prêt à me lancer dans ces recherches-là. Ah, voilà. Alors, quelles mesures pratiques?
Mais est-ce que vous avez déjà élaboré un projet introduit au ministère pour solliciter?
Bon, nous parlons en connaissance de cause. Nous savons que du point de vue recherche, nous n'avons pas assez de moyens en Afrique. C'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est en Afrique, évidemment, avec différents paliers. Alors, par rapport aux mesures pratiques, le problème, c'est d'abord le problème de contact. Mmh. Quand vous avez vos porcs, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec n'importe qui peut véhiculer le virus. Deuxièmement, il faut que ces porcs ne soient pas en contact avec les porcs malades. Troisièmement, si la maladie a déjà éclaté, il ne faut pas prendre vos animaux pour aller les cacher dans un village voisin. Vous êtes en train de répandre le virus quand vous déplacez vos animaux. Quatrièmement, quand vous avez préparé, parce que les gens aiment manger des animaux malades, malgré tout ce que les vétérinaires sont en train de dire, les déchets de je ne sais pas, ils meurent chaque jour de quoi, on ne sait pas. Alors, mais moi, je dis qu'ils meurent de microbes, quoi. Alors, quand vous avez fait votre cuisine, les déchets de cuisine conservent encore du virus. Et quand ces déchets-là sont mangés par les porcs sont contaminés. Et puis, cinquièmement, le problème d'élevage en divagation. Il ne faut pas élever en divagation, parce que si vos porcs vont en forêt et qu'ils se rencontrent là-bas avec des potamochères ou ils ont la malchance de tomber sur des tiques Onotodorus mobata, ces tiques, en prenant leur repas de sang, vont transmettre le virus sur vos porcs. Et au retour au village, quelques jours après, c'est la maladie qui éclate. Voilà un peu ce que je peux dire d'une façon survolée.
Si par exemple dans une porcherie on remarque qu'il y a déjà 3 ou 4 bêtes qui sont atteintes. Que faire? Donc il faut
les abattre.
Les bêtes atteintes et les autres qui sont...
Il faut faire les vides sanitaires. C'est ça le problème. Il faut éviter la maladie. Mais quand elle est déjà là, le seul moyen pour ne pas conserver la maladie, c'est de faire ce qu'on appelle les vides sanitaires.
Donc si je présente par exemple 50 têtes, il y a 3 ou 4 têtes qui sont atteintes, alors j'élimine
les autres
les 50.
Sont sujets à être contaminés.
Mais vous pensez que
nous entretenons la maladie. Si nous ne suivons pas ces mesures, on entretient la maladie.
Parce qu'il faut voir aussi l'investissement, le coût de l'investissement
Quand vous abattez les bêtes qui ne sont pas encore malades, vous avez le moyen de les vendre et de récupérer l'argent. Et de faire le vide sanitaire, un mois après, vous avec des insecticides, des détergents et tout ça, vous avez le moyen de pouvoir refaire votre cheptel. Mais si vous attendez que ces porcs tombent malades, mais quand ils seront malades, vous n'allez plus les abattre pour les vendre. Donc dès que la maladie éclate et dès que c'est confirmé que c'est la peste porcine africaine, le seul conseil que moi je vous donne, c'est que vous devez faire le vide sanitaire dans votre porcherie, dans votre village. Et pour repeupler, au moins un mois après avoir pris toutes les dispositions par rapport à la prophylaxie.
Et les porcs qui ne manifestent pas encore la maladie, peut-on les consommer ou pas?
Oui, j'ai dit, ceux qui ne manifestent pas encore la maladie, on peut les consommer.
Il faut les abattre rapidement et vendre,
la viande. Mais si vous attendez, ils vont être malades. Parce que le virus, la peste porcine africaine ne pardonne pas. Le taux de morbidité est très élevé. Donc les bêtes, dans une porcherie, dès que le virus entre, il y a au moins 90% des bêtes qui seront atteintes. Et celles qui seront rescapées de la maladie, qui ne vont pas mourir parce que le taux de mortalité est presque de 100%. Mmh. Mais s'il y a des bêtes qui sont rescapées, ces bêtes-là conservent les virus et sont des porteurs sains. Après un certain temps, la maladie va encore éclater.
La maladie va encore éclater. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà un virus? Comment vous avez parlé des deux types de peste porcine? Mmh. La peste porcine africaine est classique en Europe. Ouais. Au niveau de l'Europe, ça marche déjà.
Ouais.
Est-ce qu'on ne peut pas transposer le même traitement ici? Est-ce que c'est différent?
Ce sont deux virus différents. Enfin, ils sont de la même famille, mais ils sont différents dans leur comportement et dans leur réaction par rapport au corps de l'animal et par rapport aux substances de leur entourage. Ce sont deux virus tout à fait différents qui causent la maladie.
Mais qui ont les mêmes manifestations.
Oui, ce sont les mêmes manifestations, mais les virus sont différents. C'est comme ça que le vaccin de la peste porcine classique ne réagit pas pour la peste porcine africaine. Voilà.
Bien, nous parlons de la peste porcine africaine, comment la prévenir, des questions et préoccupations. Appelez-nous au 081-890-6394.
C'est parce que Radio Capéune et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi. De 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment prévenir la peste porcine africaine? Quels sont les signes de cette maladie? Et quel est le traitement approprié? On en parle. On aborde toutes ces questions avec Dr. Florent Gamoula, médecin vétérinaire. Nous avons un auditeur en ligne depuis Kalemi au Katanga. Il s'appelle Senga. Bonjour, Senga.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, je salue l'invité, je vous salue aussi. Je voudrais juste poser ma question, les deux questions que j'ai. La première, c'est celle-ci. Est-ce que toucher ces animaux-là ne peut pas aussi nous contaminer, soit nous donner d'autres maladies? La deuxième, si on pouvait garder les animaux dans un endroit hermétiquement fermé, est-ce qu'ils peuvent toutefois contracter cette maladie? J'appuie en troisième lieu ce que dit le docteur, parce que j'ai avec moi un petit bouquet. Il s'agit du guide du vulgarisateur de 1994. Il n'a rien contredit dans tout ce qu'il a dit là. Je vous remercie.
Bien, merci Senga. Docteur Florent.
Oui, merci Monsieur Senga. En fait, la maladie jusque-là n'est pas une zoonose, c'est-à-dire qu'elle ne se transmet pas des animaux à l'homme. Fort heureusement, parce que si c'était vraiment une maladie transmissible, alors
ça aurait été catastrophique.
Mais c'est une maladie qui cause des pertes économiques énormes, je crois que vous l'avez souligné au début.
Oui.
Donc c'est par rapport à cela que cette maladie devient une préoccupation pour le pays et pour l'éleveur.
Donc il n'y a pas de danger à toucher une bête malade.
Non, toucher pour nettoyer, etc., il n'y a pas de problème, mais ça ne se transmet pas à l'homme. Le virus n'est pas transmissible à l'homme. Deuxièmement, enfermer les animaux est une mesure justement de prophylaxie. Quand vous avez un élevage en claustration, c'est une bonne chose. Éviter les contacts et surtout éviter que des bêtes malades entrent dans votre porcherie. C'est souvent quand on peuple la porcherie ou un élevage qu'on amène, les dangers s'ouvrent parce que vous amenez des nouveaux animaux dont vous ne connaissez pas l'état sanitaire, peut-être que ce sont des porteurs sains qu'on a évacués d'un endroit et quand ils entrent dans votre porcherie, ils peuvent amener la maladie. Donc si vous élevez en claustration, la meilleure chose est que les animaux qui entrent, les nouveaux animaux, aient des certificats vétérinaires d'origine qui confirment qu'ils sont en bonne santé. Mais c'est une bonne chose d'élever en claustration.
Voilà. Mais les porcs ont souvent besoin de l'espace, non? Vous avez dit il faut de l'eau, la boue, pour se vautrer dedans.
Oui, c'est-à-dire qu'on prévoit ce qu'on appelle le parcours. Mais les porcs sont des animaux propres. Ils doivent être propres. S'ils sont sales, ils sont sujets de maladies. Quand ils sont sales, il faut les laver. Il faut qu'ils soient propres. Évidemment, l'élevage en divagation dans les villages avec les porcs qui courent dans tous les sens, ce n'est pas encouragé. Nous encourageons l'élevage dirigé, l'élevage en claustration, de telle sorte qu'on peut contrôler le mouvement des animaux, on peut contrôler leur alimentation. Et une chose aussi, là, je voulais souligner, c'est que, en fait, les porcs actuels, tels que nous sommes en train d'élever les porcs, nous sommes en train de provoquer la dégénérescence des races.
Oui.
Parce que les gens ne suivent pas le rythme d'alimentation. Soit disant que l'élevage des porcs coûte cher. Mais à la fin, vous avez des races dégénérées qui sont sujettes à contamination. À
Alors, docteur Florent, la peste porcine africaine peut emporter la bête, le porc, après combien de temps?
Oh, après quelques temps, ça ne dure pas. Une semaine, c'est trop.
Une semaine, c'est trop.
Ouais.
Bosco Kalala nous appelle de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, je voudrais poser une question rapport avec le sujet. C'est concernant le vaccin dont l'invité est en train de nous parler. J'étais en train de penser au virus du sida. Il y en a aussi deux. Il y en a deux. Alors, quand on a trouvé le traitement, les ARV pour le virus en Europe, le même traitement a été utilisé ici et ça donne des bons résultats. Pourquoi on ne peut pas essayer avec le vaccin qui est utilisé en Europe? Essayez d'abord avec ça ici en Afrique si ça peut donner des bons résultats. Et la deuxième proposition, c'est concernant le potamochère dont il nous a parlé. J'étais en train de réfléchir aussi de ma manière. Je me suis dit, si le potamochère supporte le virus, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen, parce que il a dit que ce sont des porteurs sains, ils ne font pas la maladie, ils peuvent... N'y a-t-il pas moyen d'utiliser le potamochère pour essayer un peu de trouver la solution pour l'Afrique? C'est un peu ça.
Ok. Donc, merci. Je commence d'abord par les potamochères. Ils font aussi la maladie, mais à un rythme un peu peut-être amoindri par rapport au porc d'élevage. Mais ce sont des réserves plutôt des tiques. Ce sont les tiques qui transmettent la maladie. La tique qu'on appelle Ornithodorus mubata. Ces tiques se retrouvent sur le corps des potamochères. Alors, les potamochères sont aussi sensibles à la maladie. Donc, cette voie d'utiliser les potamochères pour faire les recherches telles que vous pensez, je crois qu'il faut mettre une croix dessus. Alors, par rapport au vaccin, il faut savoir ceci, que en fait, le vaccin de la peste porcine classique ne réagit pas. Des essais ont été faits et on a vu que c'est un vaccin qui n'agit pas sur le virus de la peste porcine africaine, parce que ce sont deux genres différents des virus. Alors, vous parlez de sida, c'est par rapport aux moyens. Nous ne disons pas qu'il y a des problèmes insolubles, mais il faut mettre des moyens pour des recherches.
Ouais.
Mais c'est ça qui n'est pas fait. Et le problème de l'Africain, c'est ça. L'Africain...
Mais souvent, qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas de moyens ici? Vous prenez des échantillons, par exemple, que vous envoyez ailleurs, en Europe, pour des analyses.
Oui, mais il faut qu'ils s'intéressent. Le problème est d'abord africain. Donc qu'est-ce que ça? L'Européen, il a ses porcs qui vivent très bien. Ils n'ont pas de, il a un calendrier vaccinal. Donc il faut qu'il s'intéresse à la chose d'abord. Mais le problème est d'abord africain. Donc c'est à nous africains de trouver des solutions par rapport à ce qui est à nous. Donc voilà un peu comment je peux répondre. Le virus de sida, le sida, on a mis beaucoup de moyens dans la recherche parce que le sida tue l'homme. Le problème de l'animal, c'est que quand c'est l'animal qui part, souvent on n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais là, nous sommes devant une maladie catastrophique.
Non, mais quand cette maladie décime
c'est un grand problème pour l'économie du pays.
Oui.
Et c'est en ce moment-là que... Et là, je dis toujours, ce n'est pas aux scientifiques. C'est le problème, c'est au niveau des politiques des pays, quoi.
Jean Bosco, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis toujours là.
Alors, vous avez suivi Dr Florent. Il y a autre chose à dire?
Oui, je pense que pour l'instant, je suis quand même satisfait.
Merci Jean Bosco. Bonne journée à Lubumbashi.
Merci.
José Chimpamba est à Kananga. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, je devrais demander à l'invité parce que, premièrement, je salue l'invité.
Merci.
Je devrais demander parce qu'il a dit que non, la maladie qui concerne les animaux n'est pas transmissible. Mais si on arrive que ces animaux-là tombent malades et on les consomme, c'est en première question. Est-ce que ça va créer des problèmes?
Okay.
Bon. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il y a moyen que non, si ces animaux-là sont tombés malades, il y a les médicaments qu'on peut donner à ces animaux-là pour que la maladie puisse terminer? C'est ça aussi ma question.
Merci José. Docteur Florent.
Merci. Par rapport à la deuxième préoccupation de Monsieur José, il n'y a pas de médicaments. Donc la maladie, la peste porcine africaine, la maladie dont nous parlons ce matin, n'a pas de traitement. Donc personne, qu'un vétérinaire, un charlatan ne vienne pas vous tromper que c'est la peste porcine africaine, j'ai des médicaments contre ça. Il n'y a aucun traitement contre la peste porcine africaine. Alors par rapport à la consommation...
Peut-être que le seul traitement, c'est la prévention.
C'est la prévention ou alors éliminer l'animal. Voilà. Donc dès qu'il est atteint, il faut qu'il disparaisse là. Alors, la consommation des animaux malades est interdite par les scientifiques. Les vétérinaires vous disent qu'il ne faut pas consommer les animaux malades. C'est ça le principe. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que vous ne voyez pas des dangers immédiats, mais nous sommes en présence du virus, et je l'ai peut-être dit quelque part. Le virus, c'est un microbe qui est sujet à des transitions. Il peut muter n'importe quand. Alors, à ce moment-là, le mutant, on n'arrive toujours pas à contrôler les mutants. Vous savez, par exemple, pour la grippe aviaire, on parlait de H5N1 il y a quelques temps. Maintenant, quand vous allez en Asie, ce n'est plus les H5N1, c'est un mutant qui est en train de détruire. C'est les H2N7. Vous comprenez? Donc, ces animaux-là, le mutant, en fait, les microbes, quand ils mutent, ils mettent le scientifique devant des problématiques qu'il doit chercher à résoudre. Donc, nous vous conseillons
de ne pas
manger la chair des animaux malades. Il faut bien soigner vos animaux et les abattre à temps. Quand la maladie éclate, ce n'est plus le moment de consommer un animal malade.
Il faut abattre et brûler.
Quand il est malade, c'est ça.
Voilà, mais certains disent qu'en chauffant à 100 degrés, la viande, tout ça, et ça va tuer les microbes.
Oui, mais s'il fait une carapace autour de la chaleur, il y a des spores qui résistent, y a tout ça. Bon, le virus là, lui, n'a pas une carapace, mais on le contrôle pas. Ce n'est pas le fait de le chauffer qui le détruit. Attention, parce que...
Mais vous avez dit que la maladie n'est pas transmissible à l'homme.
Il n'est pas transmissible à l'homme, mais il est dangereux de consommer les animaux malades. Voilà.
Ne consommez pas les animaux malades. Tadé nous appelle de Butembo Nord-Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le vicaire. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Ici, c'est Papa Tadé, de l'Espérance de Recherche en médecine naturelle à Butembo.
Oui.
Nous félicitons beaucoup le vicaire de notre de la radio Capi pour cette cause. Sinon, chez nous, à l'Espérance de Recherche en médecine naturelle, nous avons trouvé quelques produits pour la prévention de la force la fièvre porcine. Malheureusement, comme il a dit, il est difficile qu'on puisse faire des recherches sans moyens suffisants pour recherche. Sinon, nous disposons déjà de quelques produits et nous avons beaucoup de témoignages dans notre ville ici à Butembo. Et nous sommes vraiment soutenus par les éleveurs de ce port. Et il faut vraiment un bon témoignage. Si quelque part... notre invité peut quand même nous mettre en contact avec quelques sponsors qui peuvent venir vérifier dans notre laboratoire comment nous sommes en train de faire la prophylaxie et la prophylaxie effectivement, ainsi que les mesures d'hygiène pour les porcs, les éleveurs que nous engendrons. Merci.
Monsieur Tadé, donc vous dites que vous êtes de l'Institut de la médecine naturelle à Butembo et que vous avez déjà trouvé un produit contre la peste porcine africaine et après plusieurs expériences sur le terrain, ça marche?
Oui, en tout cas, ça marche. Quand nous administrons ça au porcelain, ça va vraiment à 90-90%. Mais pour les pestes adultes, c'est à 65%.
Oui, c'est quoi le produit en question?
Bon, c'est un produit à partir des plantes médicinales. Bon, nous pouvons les baptiser comme nous voulons, mais sinon, c'est encore au niveau de la recherche.
Okay, c'est encore au niveau de l'expérimentation. Alors, docteur Florent, qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Tadé?
Bon, nous prenons bonne note. Je crois qu'à la fin, on donnera mes coordonnées. J'aimerais rester en contact avec M. Tadé et je l'encourage dans ce genre de recherches. Et comme
bon,
il a dit.
Vous pouvez lui donner vos coordonnées tout de suite, comme ça vous gardez contact.
Moi, c'est le 081-65-11-013 et le 09-73-86-0155.
Comme ça, vous pouvez garder contact et puis approfondir cela.
Okay.
Mais est-ce que les produits naturels peuvent, tel qu'il nous l'a dit là, et ça marche déjà à plus de 80%?
Ben vous savez, les médicaments sont à base des plantes, pour la plupart des médicaments, même si maintenant il y a des molécules synthétiques, mais la grosse partie des médicaments proviennent des plantes. Des plantes, des algues, etc. Donc, je l'encourage dans ce genre de recherches et j'espère qu'il est dans la bonne voie parce que on a déjà découvert
beaucoup de choses. Peut-être que vous devez faire un tour à Butembo aussi
pour aller à Butembo, il me faut près de plus de 1000 dollars.
Vous revenez
vous allez me les donner pour arriver là.
Mais vous revenez de la province de l'Équateur. Donc.
Merci beaucoup.
Nous avons Aline Kabuya de Kananga. Bonjour Kabuya.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Salutations à notre invité. Si j'interviens là, c'était par rapport à la peste porcine africaine.
Oui.
Notre invité nous dit que nous ne pouvons pas manger les aliments, cet aliment-là, ces porcs malades. Mais en fin de compte, je sais qu'au pays, nous n'avons pas de moyens pour suivre toutes les porcheries possibles et pour savoir que les porcs qui sont sur le marché et que nous allons acheter tous les jours sont des porcs contaminés. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, nous allons toujours manger ces porcs-là. Donc, on me dit à cette situation-là.
Merci. Kabouya, les viandes des porcs qu'on retrouve sur le marché, docteur Florent. Ouais. Est-ce que on peut pas savoir que ça provient d'une bête contaminée ou pas? C'est ça le problème.
Oui, c'est-à-dire là, on pose toujours ces problèmes, des problématiques de l'expertise, parce qu'en fait, tout aliment d'origine animale qui est livré à la consommation humaine doit être expertisé par le vétérinaire. Alors, j'encourage tout simplement le ministère de l'Agriculture qui est en train de chercher à faire le recyclage et le renforcement des capacités des vétérinaires qui opèrent sur terrain. J'espère qu'ils font une expertise valable. Mais si jamais il y a des négligences ou il y a de l'incompétence à ces niveaux-là...
Mais généralement, l'expertise n'est pas faite, n'est pas du tout faite.
C'est vous qui le dites.
On trouve des abattoirs un peu partout et puis
voilà. Dans les abattoirs, on fait l'expertise. Les animaux qui sont abattus au niveau des abattoirs, ce sont les abattages à clandestins
à
qui
cité,
échappent.
Il y a des abattoirs.
Oui, mais justement, et là, il faut que la loi est là. On interdit les abattages clandestins, mais il faut maintenant suivre les mesures d'application de cette loi-là qui échappent un peu.
Voilà, Twinya nous écrit depuis le territoire de Mahagui, en province orientale. Il dit quelles sont les mesures préventives à prendre contre la peste, lorsque la peste porcine africaine est déclarée, pour éviter la propagation.
Les mesures, je l'ai dit tout de suite, qu'il ne faut pas que d'un foyer malade, on déplace les animaux vers un village ou un autre endroit qui est sain. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, il faut procéder à l'abattage des animaux et détruire toute viande des animaux malades parce qu'ils contiennent du virus. Quand vous allez consommer ces animaux, la viande de ces animaux, peut-être vous aurez des maux de ventre et des inconvénients
ou
la diarrhée, etc., ce qui n'est pas convenable. Il y a aussi le problème que les déchets alimentaires contiennent le virus. Alors, quand les autres porcs vont consommer ces déchets alimentaires, vous ne faites qu'entretenir la maladie. Alors, la troisième chose, je l'ai dit, qu'il faut éviter de visiter et de repartir de l'endroit contaminé n'importe comment. Il y a des mesures qu'il faut prendre. Il y a des problèmes pour les véhicules, il y a les rotulives, et pour les hommes, il y a des pédulives, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il faut marcher dans...
Il y a des désinfectants aussi
désinfectants qui sont imbibés dans l'eau. De telle sorte, si c'est le virus, il reste dans cette eau imprégnée de désinfectants. Et pour le véhicule, c'est la même chose. Donc, il faut un contrôle. Le contrôle des animaux, c'est ça qui échappe souvent.
Et pour les fermes qui ne sont pas encore concernées, il faut renforcer l'hygiène.
Il faut renforcer l'hygiène et il faut des mesures de claustration. C'est-à-dire éviter que les gens de l'extérieur visitent votre porcherie et que les animaux venant de l'extérieur entrent peuple votre porcherie. C'est là les mesures qui sont indiquées pour cela.
Docteur Florent Gamouna, médecin vétérinaire et président du syndicat national des médecins vétérinaires. Beaucoup. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Le rendez-vous de l'emploi, c'est tout de suite avec Narcisse Bayard.